protestation menée par la génération Z, nom donné à ces jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2000. On les appelle aussi les Zoomers, ceux qui aux quatre coins du monde font trembler et parfois tomber leurs aînés au pouvoir. Au Népal, en septembre dernier, 70 morts dans des affrontements et le départ du Premier ministre. Les jeunes protestaient contre la censure des réseaux sociaux. À Madagascar, cette semaine, 22 morts et le président en fuite, c'est un colonel de l'armée qui va le remplacer. Sans parler des Philippines, de l'Indonésie également, où des rassemblements et des émeutes ont là aussi fait plusieurs victimes. Au Pérou également, où la jeunesse crie son ras-le-bol de la classe politique et du crime organisé. Et puis au Maroc, où les jeunes dénoncent les dépenses pour accueillir la Coupe du Monde de football alors que les soins de santé sont exsangues. Maroc et Pérou, illustration sonore.
Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils veulent n'est pas quelque chose d'impossible, mais qui devrait exister au Maroc. Où est le gouvernement dans tout cela? Que fait le chef du gouvernement qui ne fait que parler? Les jeunes ont des demandes vitales pour le Maroc, surtout pour les hôpitaux et les écoles.
Nous ne voulons pas du football ou quoi que ce soit. Si le football avait été bénéfique pour nous, on en aurait depuis longtemps et cela aurait profité aux jeunes. Nous voulons la santé, nos parents souffrent.
Je me fais du souci pour mon père. Je l'appelle pour savoir si ça va, s'il va rentrer à la maison. C'est pour lui que je manifeste et pour tout le pays.
Je ne suis évidemment pas fier de voir tous ces manifestants parce que ça montre qu'on va mal, mais je suis heureux qu'on ait pu rallier autant de monde parce que ça prouve qu'on est unis en tant que peuple.
Voilà, le gars à Luliège est spécialiste des questions de militantisme. Est-ce que ce sont des mouvements très différents, ces mouvements de la génération Z au Népal, à Madagascar, au Maroc, au Pérou, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie entre eux?
Je pense qu'il y a effectivement un dénominateur commun, plutôt même deux dénominateurs communs pour être plus précis. D'une part, on a affaire à une jeunesse en fait de plus en plus éduquée, de plus en plus formée. Vous savez, les inscriptions dans les hautes écoles, dans les universités et ce partout dans le monde augmentent un petit peu partout, hein, et le nombre de diplômés également. Et à cet égard-là, on peut se réjouir de la démocratisation, je crois, de l'enseignement. Mais il s'avère donc que le résultat d'une telle démocratisation, ben, c'est tout simplement le savoir et les jeunes. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais arriver, et eh bien tout simplement que ce soit au Maroc, en Amérique latine et même en Belgique, et eh bien tout simplement ne sont plus dupes, c'est-à-dire qu'ils ont été formés, ils connaissent les mécanismes économiques globaux, ils savent ce que signifie que de vivre dans des États où quelque chose comme un service public existe, et ils voient bien que ce service public, que ce soit l'école, les hôpitaux, comme on l'entendait dans votre reportage, la santé en général, les universités, la recherche, ils voient bien en fait que ce qu'on a traditionnellement appelé des services publics dans les États, et je mets des guillemets, providence, sont tout simplement en train d'être détruits un petit peu partout. Détruits au nom d'une dette qu'on est donc supposé toutes et tous pouvoir rembourser, mais dette qui est elle aussi sujette à caution, puisqu'il s'agit d'une dette que l'on doit à des banques qui ont été privatisées alors qu'il n'y a pas encore si longtemps elles étaient publiques. Et il voit bien également que ces mécanismes d'endettement, eh bien, profitent finalement toujours au même pourcentage infime de la population, laquelle détient donc en l'occurrence des actions dans les banques, les assurances. Donc cette génération Z, cette Gen Z dont on parle beaucoup, je pense tout simplement elle n'est plus dupe. Elle est formée, elle est éduquée, elle comprend comment fonctionne le monde et elle sait très bien pourquoi de surcroît elle est dans la rue. Et en outre, elle est tout à fait capable d'argumenter à ce sujet-là.
Il y a un socle commun donc, de revendications, on le comprend, Bruno Frère. Est-ce qu'il y a aussi un outil commun? Est-ce que le smartphone, les réseaux sociaux contribuent à ce soulèvement de la jeunesse aujourd'hui?
Alors, bon, les réseaux sociaux, je pense, c'est évidemment un élément... un élément explicatif, mais je suis toujours très, très prudent quand on parle des réseaux sociaux. On l'a bien vu à l'époque des printemps arabes, hein, les réseaux sociaux ont été à la fois ce qui a si vous voulez, faciliter l'insurrection. Mais on voit bien également à quel point ces mêmes réseaux sociaux sont utilisés massivement par les forces plus conservatrices et notamment les forces gouvernementales pour contrer, si vous voulez, ces mouvements de révolte et puis surtout pour inonder la toile et les réseaux sociaux de messages tout à fait idéologiques, propulsant toujours dans la sphère publique les mêmes mises en garde. Attention à l'ordre établi, protégeons l'ordre établi. Ces jeunes ne savent pas ce qu'ils font, ces jeunes sont violents, ces jeunes n'ont pas de langage articulé. Revenons-en à des valeurs un peu fondamentales et effectivement déployons davantage d'efforts encore pour, si vous voulez, atténuer ces révoltes ou couver, masquer en tout cas ces révoltes du mieux possible.
Vous l'avez dit, est-ce que, et on l'a dit aussi, il y a toutes ces manifestations, ces mobilisations ont fait beaucoup de blessés, voire beaucoup de morts dans certains pays. Est-ce que cette mobilisation de la Gen Z s'accompagne d'un recours à la violence, Bruno Frère ?
Bon, alors ce qu'on voit de manière générale, c'est que la violence, elle est toujours davantage, et j'en veux pour preuve ce qui se passe aux États-Unis et les manifestations dans les différentes grandes villes américaines, elle est d'abord le fait de l'État. Il ne faut quand même pas oublier, l'État, c'est le monopole de la violence légitime, c'est le pouvoir. C'est donc, généralement, les violences déclarées ou si vous voulez repérer de ces jeunes, elle est sans commune mesure avec la violence déployée par l'État pour la contrôler. Par ailleurs, j'insisterai sur deux points. Le premier point, c'est que lorsque violence il y a, ces violences sont souvent ciblées sur le modèle des Black Blocs, par exemple, qui ne sont pas des casseurs qui détruisent n'importe quoi. Ils visent des banques, ils visent des assurances. Récemment, en Belgique, lors de la manifestation, c'était l'Office des étrangers qui mène une politique extrêmement discriminatoire qui était visée. Ça, c'est un premier point sur lequel je voudrais... Pardon ?
Et l'hôtel Hilton aussi, qui a été visé
mardi. Oui, voilà, effectivement. C'est le premier point que je voudrais viser. Le deuxième point, c'est qu'on omet souvent d'insister ou de repérer la violence systémique, ce que Bourdieu en fait appelait la violence symbolique, qui s'abat sur les plus précaires, les plus faibles, les étudiants, les malades, les chômeurs, toujours supposés être assistés. Cette violence symbolique-là, qui en conduit certains jusqu'au précariat des plus prononcés, on en parle beaucoup moins. Et j'ai quand même le sentiment qu'à certains moments, la violence supposée des jeunes, qui reste, et notamment en Belgique, si vous voulez, relativement localisée, et évidemment les médias vont mettre toutes leurs caméras sur ces petites violences localisées, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question de savoir d'où elle provient, en fait, et comment elle a été générée, provoquée.
Voilà pour votre point de vue et votre analyse, Bruno Frère, sur cette mobilisation de la Gen Z un peu partout dans le monde. Bruno Frère, vous êtes sociologue à l'ULIEJ, spécialiste des questions de militantisme. Merci.